Notre journal, le matin, à entendre les nouvelles à la radio, on pourrait se demander si Dieu s'occupe encore de nous. Apparemment, il reste indifférent. Il ne voit pas ce qui se passe. Il n'entend pas les appels qui viennent de la terre. L'insensé ira jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, pour être de son temps, il dira que Dieu est mort. En effet, les nations se dressent les unes contre les autres. Nous arrivons à peine après 20 ans à étouffer les échos d'une guerre mondiale que déjà nous nous préparons à l'éventualité d'une autre, plus meurtrière encore. On parle de course à l'armement et nous ne devons la paix qui règne aujourd'hui entre les plus grandes nations qu'à la terreur mutuelle qu'elle s'inspire. En marge de cela, ou peut-être à cause de cela, des milliers d'hommes meurent de faim, tandis que des milliers d'autres meurent de s'être trop bien nourris. Partout où nous tournons les yeux, sur presque tous les points de la carte du monde, il y a le mécontentement, la misère, la révolution, la guerre, la tension, la division, la violence. Que devient le chrétien dans tout cela? Sa foi, certes, est assaillie par de nombreuses questions, de grandes perplexités. Mais il ne doute pas, il n'ose pas douter un instant que Dieu dirige les affaires du monde. Il se tourne plus que jamais vers les Écritures qui sont le roc de sa foi. Elles sont sa sécurité. Parce qu'elles sont le message de Dieu, elles le mettent en confiance. Sur des questions aussi vitales que l'origine de l'homme, sa place dans l'univers et sa destinée, les hommes avouent leur ignorance effarée ou se perdent en conjectures, en hypothèses aussi variées que contradictoires. La Bible seule, en face des siècles d'histoire humaine, parle d'une manière définitive. Les marteaux du raisonnement et de la science des hommes ont bien essayé de la réduire, mais telle une enclume, elle demeure intacte. Ce sont les marteaux qui sont brisés. Or, quel est le message de la Bible concernant ces temps si troublés? En réalité, la Bible parle de certains signes qui marqueront la fin des temps. Que signifie cette expression « la fin des temps » ? Nous apprenons que depuis la naissance du Christ, le monde est entré dans la dernière période de son histoire. C'est l'ère des derniers temps. L'apôtre Pierre dit que Christ est venu à la fin des temps. L'apôtre Paul s'adressait à ceux qui étaient parvenus à la fin des siècles. Le prophète Joël a prédit la venue du Christ dans le monde dans les derniers jours. Et l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre que puisque plusieurs antéchrists se sont déjà manifestés, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Toutes ces expressions traduisent avec assez de suspense, dirions-nous aujourd'hui, l'imminence de la fin de ce monde. Cette période des derniers temps, dont le commencement est derrière nous et la fin devant nous, sera jalonnée de toutes sortes de mots qui seront autant de signes avant-coureurs. La plupart de ces mots auront pour cause directe l'orgueil des hommes, leur cruauté, leur soif de posséder, leur intempérance et leur égoïsme. C'est ainsi que Paul décrit les hommes des derniers jours. Ce sont eux qui provoqueront les grands désordres, source de souffrance et de lamentation. Il semble aussi que la nature se révoltera par des tremblements de terre et des famines, ainsi que par des phénomènes sidéraux. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances seront ébranlées. Ces derniers détails ne sont peut-être que des images, mais ils sont à même de nous faire saisir l'ampleur terrifiante des événements qui accompagneront le retour du Christ. Il est évident que nous ne pouvons pas établir une sorte de comptabilité des catastrophes mondiales pour calculer ne serait-ce qu'approximativement ce jour qui sera le dernier. Il nous suffit d'entendre et de respecter cette parole du Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais nous n'en sommes pas encore là. Revenons au temps présent et étudions le comportement du chrétien au sein de tout ce désordre. Il est souvent la victime innocente de la méchanceté, de l'orgueil et de l'égoïsme des hommes dont nous venons de parler. L'Évangile ne cache pas la difficulté de l'épreuve. Jésus dit à cet égard, « Par suite de l'injustice croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Le chrétien ne doit donc pas s'étonner de ce qui lui arrive ou de ce qui peut lui arriver. Satan augmentera son zèle, mais il ne pourra pas aller plus loin que la longueur de sa chaîne. L'Apocalypse avertit le chrétien, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Dans le monde de désordre qui est le nôtre, le chrétien peut donc demeurer lucide parce qu'il comprend la cause de ce désordre. Et si parfois il doit en être la victime, il n'en sera jamais un participant. Voyons à présent ce que nous avons affirmé au début de notre causerie, à savoir que Dieu dirige les affaires du monde. C'est-à-dire qu'il demeure le maître des événements depuis le commencement de l'histoire humaine. Cette vérité, nous la trouvons merveilleusement exprimée à travers toute l'histoire du peuple d'Israël. Nous nous souvenons comment Dieu a béni Abraham, lui promettant une immense et glorieuse descendance. Nous savons maintenant que la bénédiction qui devait surgir du vieux patriarche était Christ le Sauveur. Mais quelle péripétie inattendue, quelle souffrance féconde, quelle perplexité, quel labyrinthe avant que ne s'accomplisse plusieurs siècles plus tard cette merveilleuse promesse. Cette providence de Dieu culmine dans l'épisode de Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères en Égypte. Là, malgré les épreuves, il restera fidèle à son Dieu. Par des moyens inattendus, Joseph gagnera la confiance du Pharaon, qui l'élèvera au rang de vice-roi. Au début des 7 années de sécheresse prédites par Joseph, ce dernier voit arriver un groupe de nomades qui veulent acheter des céréales. Il n'a aucune peine à les identifier. Ce sont là 10 de ses frères, ceux-là même qui, 15 ans plus tôt, l'ont vendu de manière si délibérée à des marchands d'esclaves. Nous n'insisterons pas sur cet épisode qui est très bien connu. Ces derniers chapitres de la Genèse sont parmi les plus beaux de l'Ancien Testament. Lorsque Joseph se révéla à ses frères, ils furent d'abord épouvantés. La vengeance n'est-elle pas un plat qui se mange froid? Mais Joseph les apaise. Il n'a pas l'intention de se venger. Au contraire, il leur dit des choses qui éclairent singulièrement le sens parfois déroutant de l'histoire humaine. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ainsi, à ses frères stupéfaits, Joseph apprend que Dieu s'est servi de leur jalousie et de leur méchanceté pour l'envoyer en avant, sur les rives du Nil, dans le but évident de préserver la famille de Jacob, héritière de la promesse faite à Abraham. Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham, l'avait compris. Mais le chemin qui mène à l'accomplissement final de la promesse, c'est-à-dire à Christ, n'est pas encore terminé. Il y aura l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. C'est alors qu'apparaîtra la haute et noble figure de Moïse, le libérateur, le prophète et législateur. Puis ce sera la longue marche dans le désert, la conquête de Canaan, la déportation en Babylonie et le retour au pays après 70 années de captivité. Et derrière ces événements, qui préparent l'événement par excellence, il y a la main directrice de Dieu. Sa manière d'agir est imprévisible. Il ne tient pas compte de la logique humaine. Il défie la raison humaine. Depuis le commencement jusqu'à nos jours, en passant par Joseph et la croix du Christ, Dieu s'est servi des moyens les plus inattendus, les plus méprisés par les hommes, les plus faibles et les plus vils en apparence, pour mener à bien son projet, son dessein, à savoir sauver les hommes par son Fils Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'exclamera « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables !» et ses voix incompréhensibles. Et à celui qui se permet de douter de la justice de Dieu dans tel ou tel aspect de son gouvernement, Paul dira sévèrement, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Non, le chrétien ne doute pas que Dieu dirige les affaires du monde. Oh, bien sûr, il sait très bien que Dieu ne fera jamais violence à la liberté des hommes. C'est pourquoi il les laisse faire s'ils persistent à creuser la fosse dans laquelle ils finiront par tomber. Il ne peut pas forcer le méchant à se repentir. Tout en lui est invitation à répondre à son amour par un amour tout aussi désintéressé. Le chrétien sait aussi que, selon la promesse, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car tout comme il protégea le peuple d'Israël à travers sa longue histoire mouvementée, il protège aujourd'hui les hommes et les femmes de bonne volonté qui constituent son peuple élu, sa nation sainte, son Église. Lorsque les nations auront été réduites en cendres dans la balance de Dieu, lorsque leurs victoires se seront fanées et que leur gloire se sera éteinte, alors Dieu révélera tous ces obscurs, tous ces anonymes, tous ces humbles qui l'auront aimé, qui auront cru en lui et qui l'auront servi. Chers amis, puissions-nous être trouvés parmi eux en ce jour-là.